Le séisme du DMA après la volte-face d'Apple face à Epic Games avec le retour de Fortnite sur iPhone en Europe comme enjeu. Cupertino se concentre à nouveau sur le sideloading et annonce que certaines apps pourront être installées sur iPhone en Europe à partir du printemps directement depuis le site web de l'éditeur ou du développeur sous conditions. Alors lesquelles ? Le détail dans quelques instants. Le MacBook Air M3 est arrivé et il est ici entre mes mains à suivre les quelques informations que j'ai pu glaner chez Apple avec le responsable marketing produit pour la France. Une heure à discuter avec lui même sans pouvoir le citer, c'est toujours très intéressant. Le journal de la semaine avec les MacBook Pro M4 dans les tuyaux, iOS 18 qui pourrait ajouter une fonction d'aide auditive aux AirPods Pro actuels. Et une fenêtre de tir pour l'annonce des nouveaux iPad, iPad Air et iPad Pro M3 OLED. Ça approche. Et puis le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon. Cette semaine, retour sur l'Apple Car, un gouffre financier qui aurait coûté leur place à nombre de grands patrons, mais pas à Tim Cook. Pourquoi ? Pour en profiter et nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Mardi 12 mars 2024, il est 17h45. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple. Ici Benjamin Vincent, ce plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine. Et ils sont deux autour de moi. Salut les copains, salut Fabrice Neumann.
Salut mon capitaine, salut à toutes et tous.
Mentor en technologie, consultant, formateur. Pour te joindre, c'est sur neumann.fr que ça se passe.
C'est vrai.
Et salut à toi aussi, Gilles Dounès.
Salut à toi, son capitaine, qui est plus appelé mon capitaine, alors je vais prendre le relais. Je suis ravi de vous retrouver.
Comment vas-tu ?
Ça va, je te remercie.
Nous aussi, on est ravis de te retrouver. Je rappelle que tu es l'ancien rédacteur en chef de MacPlus.net et le co-auteur d'iPod Backstage chez Duno. Alors, l'événement de la semaine, alors qu'on se focalise depuis des mois sur l'idée de magasins d'applications alternatifs, qu'on imagine des usines à gaz potentielles, Apple vient d'annoncer que sous condition, certains éditeurs et développeurs pourront rendre leurs applications mobiles téléchargeables sur iPhone directement depuis leur site web. Alors Fabrice, honnêtement, j'ai tout de suite pensé à toi. Toi qui compares depuis quasiment toujours l'installation fermée des apps sur iPhone à l'installation ouverte des apps sur Mac. En fait, on va plus être très loin du système tel qu'on le connaît sur les Mac.
Alors, avec quelques conditions quand même, et c'est très bien comme ça. L'idée, c'est pas forcément de faire exactement comme sur un ordi, mais effectivement, on va pouvoir, a priori, installer des applications directement depuis un site web. Donc, comme on fait depuis un Mac ou un PC. On sait pas encore exactement comment ça va se passer. Apple a indiqué les conditions qui sont assez nombreuses pour qu'un développeur d'application puisse le faire. Mais enfin, on avance dans ce sens-là, effectivement, ouais.
Gilles, c'est quoi l'intérêt, selon toi, pour Apple d'aller un cran plus loin, comme ça, dans l'ouverture, alors que, on le sait, hein, la seule idée des magasins alternatifs donne déjà des boutons à Cupertino ?
Ah, c'est pas exactement vrai. Là, l'idée, c'est d'essayer d'éviter le procès en sorcellerie monopolistique et le tas de fagots que promettait déjà Margaret Vestager et sa panoplie d'amendes diverses et variées, plus ou moins salées. Et puis, on a eu un certain nombre de garanties préalables qui ont été posées par Apple, en particulier une sorte de revue a priori de la sécurité et de l'innocuité des applications qui seront proposées sur ces magasins alternatifs. Ce qui était le plus important pour Apple et qui justifiait une bonne partie de sa, on va dire gentiment, de sa réticence à laisser venir des concurrents proposer des applications sur sa plateforme. C'est Ça plus les garanties financières qu'ils prennent, puisque il faudra quand même que les développeurs et les tenanciers de boutiques passent d'une certaine manière à la caisse.
Fabrice, Gilles sous-entend que Apple en fait est un peu obligé aussi d'aller jusque-là. Est-ce que c'est ton sentiment? Est-ce que le fait de simplement permettre l'existence d'app alternatives sous forme d'applications sur l'iPhone, ça suffisait pas?
Ben, en fait, ça me fait penser à une petite phrase que Thierry Breton t'avait dite quand tu l'avais interviewé à Cannes, il me semble. On était à quelques jours de l'entrée en vigueur du DMA.
À Barcelone.
Ah oui, pardon, c'était au Mobile World Congress. Je fais une fixette sur Cannes, je sais pas pourquoi. et il t'avait dit, on était à quelques jours de l'entrée en vigueur, et oui, on discute toujours avec Apple. Et je vois que on est donc là, c'est entré en vigueur le 6 mars, et on a des nouvelles annonces d'Apple qui étaient prévues ou pas, finalement, on n'en sait rien.
Mais c'est entré le 7 mars en vigueur, en fait.
Très bien, pardon pour ce petit détail. Mais et du coup,
il m'a repris sur la date, en fait, quand je lui ai dit 6 mars. Il m'a dit, ah non, c'est le
D'accord.
7. Alors,
bon, ils avaient le choix.
Je te reprends aussi, du coup.
Et merci, Gilles. Et donc.
Non, je parle de Thierry Breton.
Oui, non, mais Gilles a fait une blague vaseuse, il faut lui dire.
Ah,
non,
d'accord.
On a entendu, sinon il n'est pas content.
On embrasse François. On embrasse François.
Et donc, j'ai envie de dire, un peu comme par hasard, on a de nouveaux détails et des nouvelles choses sur lesquelles Apple semble céder un peu. C'est un peu comme ça qu'on peut le prendre. Comme si j'aurais envie de mettre ça sur le compte des discussions donc supplémentaires auxquelles Thierry Breton faisait référence. C'est-à-dire que oui, il y a l'ouverture de boutiques, donc des places de marché alternatives. Il y a eu d'abord une petite quelques annonces pour simplifier et assouplir ces boutiques alternatives, et puis maintenant on en est à la possibilité prochaine de pouvoir installer en téléchargeant directement depuis un site web, à condition quand même qu'il s'agisse de développeurs ayant pignon sur rue d'Apple. Il faut avoir un compte développeur depuis au moins 2 ans en résidant dans l'Union européenne, naturellement, puisque c'est pour ça que c'est fait quand même. Et avec certaines conditions aussi que j'ai trouvées un peu pouvant laisser place à de l'interprétation si jamais il y a un problème, c'est-à-dire qu'il faut que le développeur puisse répondre rapidement à des demandes d'Apple si Apple pense que certaines pratiques du développeur peuvent mettre en péril par exemple la vie privée des utilisateurs. Je crains que de temps en temps il y ait des accrochages avec Apple qui disent bon, vous faites pas comme on veut parce que vous avez mis 72 heures à répondre plutôt que 48, donc on vous coupe la chic. C'est possible, mais on verra. Je veux pas faire de procès d'intention, mais en tout cas, dans les conditions données par Apple, il y a ce genre de langage qui laisse un petit peu de place à l'interprétation. C'est pas mal non plus en même temps, parce qu'il faut pas que ce soit trop rigide. Et puis un autre truc de souplesse que j'ai remarqué dans les annonces d'aujourd'hui, du 12 mars, c'est que il y a, au moment où on enregistre en tout cas, il y a la possibilité pour un prestataire, enfin quelqu'un qui veut ouvrir un magasin d'applications alternatives, il va avoir finalement le droit de ne présenter que ses propres applications, alors qu'avant, une place de marché alternative devait être œcuménique et présenter au moins une, j'imagine, application qui ne soit pas signée du même développeur. Donc là, on peut imaginer une place de marché alternative, puisque c'est ça le terme consacré, de Meta, dans laquelle il n'y aurait que WhatsApp, Facebook, Instagram et rien d'autre. Et pareil pour Epic Games. Donc, quand ils ouvriront leur boutique, je pense qu'ils le feront, eh ben, ils pourront n'avoir que leur propre jeu dedans, sans forcément s'ouvrir à d'autres. Donc, voilà, ça s'assouplit petit à petit. Je pense que c'est exactement l'esprit dans lequel on avance. C'est-à-dire qu'il y a des règles très rigides. Et puis, à force de discussion, il y a un compromis qui est trouvé à chaque étape. Les étapes sont nombreuses, semble-t-il.
Ouais. Gilles, il y a une autre condition, à moins que tu l'aies cité Fabrice, c'est qu'il faut avoir écoulé au moins 1 million d'exemplaires de son appli dans l'année.
Oui.
C'est quoi l'intérêt de cette condition, selon toi?
Fabrice l'a cité, oui, c'est pour avoir des gens un peu sérieux et pas des aigrefins qui arrivent, des carpet baggers, pour rester dans l'histoire américaine, qui arrivent avec une fois que la table est rase et qui essaient de fourguer des applications. Tu l'as cité, hein, de jeux, tu en parles souvent de films X, par exemple, qui seront des aspirateurs. Tu en as parlé
J'en parle
souvent.
pas souvent, c'est juste que
C'est un
on
risque
en parle en
majeur.
ce moment parce que
C'est un risque. Tu fais bien d'en parler,
ça va
c'est un
être la
risque.
brèche,
C'est un risque. Mais
ça va être la brèche
pourquoi c'est un
pour le
risque?
X.
C'est un risque majeur d'aspirateur à données personnelles et de levier ultérieur pour des tentatives de chantage et d'extorsion de fonds comme elles se multiplient en ce moment, quoi. Vous avez regardé mauvaise nouvelle, tu as reçu ces mails. Mauvaise nouvelle, on vous a vu en train de regarder, de vous amuser devant des films. Est-ce que votre entourage, votre conjoint, votre employeur serait ravi d'apprendre ça? Donc, versez-moi tant de bitcoin au compte que je vais vous communiquer. C'est vraiment quelque chose un piège qui va être tendu et pas mal de gens vont tomber dedans et risque de. On les a tous qui avons gardé un œil sur Twitter, les comptes qui s'abonnent à votre compte et qui sont ceux d'un corte jeune, enfin, soi-disant un corte jeune fille qui propose des vidéos de ceci ou de cela, ou des. C'est un piège. Et ensuite, il
Mais je
y
vois
a
pas
des.
pourquoi l'arrivée d'applications de ce genre dans des magasins alternatifs augmente le risque que par rapport à celui qu'on a actuellement.
Parce qu'il n'était pas sur iOS. Justement, c'était
Non, mais il
un.
n'y a pas d'application, mais on peut avec son navigateur aller sur n'importe quel site
Oui, mais
porno et puis prendre un abonnement aussi pour ceux qui veulent. C'est pareil.
c'est un risque supplémentaire, une facilité. Il y a une app pour ça. Il y aura une app pour ça aussi. Et c'est
Ouais.
un truc pavlovien auquel nombre de personnes risquent de céder, qui risquent de s'en mordre les doigts. C'est un petit peu le.
Ouais.
Alors,
Bon, le
Apple,
risque
on peut.
existe déjà quand même, Gilles, c'est ça
Oui, mais
que
pas
veut
sur
dire
les
Fabrice, je pense.
applications. Et il y a on l'a vu depuis 10 ans, il y a un effet de levier terrible sur les usages et les. J'aime pas ce terme, mais consommation de contenu, grâce aux applications. Alors, on peut le faire avec un navigateur en allant sur des sites, mais il y a une friction de l'interface qui est telle qu'il faut vraiment le vouloir pour le faire. Là, il y a beaucoup plus de facilité, éventuellement des jeunes qui vont tourner comme ça se produit très très souvent, les mesures de protection parentale, et il risque d'y avoir des catastrophes en chaîne s'il n'y a pas des garde-fous qui contraignent la liberté, j'en conviens, mais
Ok.
c'est quelque chose de potentiellement dangereux, pas parce que c'est mal de regarder du contenu un peu leste ou voire davantage en ligne, c'est que sous forme d'application, c'est la porte ouverte aux aigrefins, encore une fois.
Ok. Fabrice, sur la partie purement magasin alternatif, on a eu une ou deux infos depuis la semaine dernière sur l'avancée des négociations entre Apple et certains candidats, on va dire.
Bah, c'est-à-dire que on sait que donc pour ouvrir un magasin, donc c'est pareil que pour ce qu'on vient de découvrir aujourd'hui, pouvoir distribuer ses applications depuis un site web, il faut passer par quelques étapes, ouvrir un dossier auprès d'Apple, etc. Et on sait donc cette app, le catalogue, le Netflix des applications pour Mac se prépare. Et puis il y a un service qui s'appelle Alt Store. ALTSTORE, qu'on trouve sur altstore.io, qui existe en fait déjà depuis plusieurs années, qui propose déjà depuis plusieurs années un magasin d'applications alternatives pour iPhone, mais qui le propose via, il faut passer par, c'est très complexe, il faut, si je me souviens bien, installer Xcode et passer par, par une installation de développeur, et puis ensuite relier son iPhone à son Mac avec un câble, etc. Donc c'est très compliqué, et eux qui ont donc cette volonté depuis plusieurs années d'ouvrir un magasin d'applications alternatives pour iPhone. Ils sont en train d'être prêts. Ils ont passé les premières étapes auprès d'Apple, justement, pour être capables d'ouvrir leur propre magasin d'applications selon les nouvelles modalités d'Apple. Voilà, donc ça se précise. Et puis, il y en aura d'autres.
Ouais. Alors, avant de passer à l'info de la semaine, c'est-à-dire la sortie effective du MacBook Air M3, Fabrice, on peut peut-être revenir sur les retours qu'on a eus de nos auditeurs sur les réseaux sociaux depuis l'épisode de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça a dit ?
Alors en fait, je voulais puis surtout faire un petit coucou à notre camarade Marcos X, qui suite à l'iWeek Express qu'on avait fait, tous les trois justement, concernant les discussions animées entre Apple et Epic.
Epic Games.
Et donc il a indiqué que personnellement, alors je vais le citer, personnellement je donne bien plus raison à l'analyse de Gilles qu'à celle de Fabrice, donc c'est très bien. C'était une discussion,
c'est pour toi
bien,
Gilles.
Je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Un point pour Gilles. Et puis alors, il continue, et mauvais point pour Fabrice lorsqu'il reprend Gilles sur la Norvège pensant qu'il confond avec Spotify alors que Gilles a complètement raison sur ce coup-là. Alors je voulais remercier Marcos pour son écoute attentive. On lui fait remarquer une petite chose quand même, c'est que quand effectivement j'avais repris, et j'aurais pas dû, Gilles, quand il a commencé à parler, alors non pas de la Norvège, mais de la Suède, puisque c'est un compte suédois, qu'une fois que Gilles a maintenu sa position, qu'il a bien fait et que j'ai compris de quoi il parlait, je lui avais dit à ce moment-là tout de suite, ah oui, sur ce point-là, tu as raison, Gilles, naturellement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on voit que ce genre de discussion et de débat, ça peut déborder sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, c'est toujours intéressant, et puis ça nous fait progresser, en tout cas... Gilles nous fait parfois la remarque qu'on ne l'écoute pas suffisamment, et bien visiblement, il y a au moins un auditeur qui est d'accord. Donc, on va faire un effort supplémentaire.
Absolument. Et donc, on vous encourage à réagir, évidemment, sur les réseaux avec le hashtag iWeekLSA, n'oubliez pas. Ça nous permet comme ça d'intercepter vos messages et de les lire. Et puis, on prendra le temps qu'il faudra désormais chaque semaine dans l'hebdo pour revenir sur vos réactions et vos questions sur les réseaux, que ce soit sur X, sur Mastodon, Threads ou
Blue Sky peut-être.
Voilà, Blue Sky, exactement Gilles, j'avais un trou de mémoire. Voilà, je vous rappelle aussi que si vous appréciez l'hebdo iWeek la semaine Apple, on vous propose de vous abonner à notre autre podcast iWeek Express. Celui-là est imprévisible parce qu'il est déclenché à chaque fois par une information de dernière minute. Comment ça se passe ? Eh bien, dès qu'elle tombe, on enregistre et on diffuse un nouvel épisode. Et donc l'abonnement est d'autant plus important que on peut pas vous prévenir à l'avance de la mise en chantier d'un numéro, donc pour ne pas les rater et pour les avoir dès qu'ils arrivent, abonnez-vous à iWeek Express sur toutes les grandes plateformes de podcast et c'est toujours gratuit. On passe à ce qui est l'info de la semaine. Alors c'est pas une surprise parce que cette info elle était annoncée depuis le début de la semaine dernière. Le MacBook Air M3 est sorti vendredi. Et j'ai eu la chance il y a quelques heures non seulement de récupérer le modèle de base, n'est-ce pas, la version 13 pouces en coloris Midnight, le fameux coloris qui est censé moins marquer les traces de doigts, Alors autant vous dire que je j'ai pas essayé le M2 Midnight, mais le M3 Midnight marque aussi les traces de doigts. Hein. Je sais pas si vous le voyez, je l'ai pas beaucoup manipulé,
c'est
mais on voit
rillette.
Les traces de doigts. Vraiment, je l'ai pas beaucoup manipulé.
C'est
et j'ai fait le test. Je vais vous avouer, je me suis pas lavé les mains. Vous voyez les traces de doigts ? Vous voyez les traces ? Je me suis pas lavé les mains avant de le manipuler. Tout à l'heure, j'ai mangé une cigarette russe, qui est un gâteau qui est pas vraiment gras. On peut pas dire que ce soit un gâteau gras.
Hein,
j'ai mangé une cigarette russe, voilà.
C'est extrêmement
non,
gras.
Non, mais je voulais faire le test. Voilà. Et après, j'ai pris le MacBook Air. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà, il marque aussi les traces de doigts. Mais il est très beau. Je dois dire que le coloris est absolument magnifique. Donc, je pense que ça le fait quand même. La petite chiffonnette servira à lui redonner son éclat de sortie de boîte à chaque fois que vous aurez besoin de le montrer en société. Voilà.
Elle est toujours pas livrée avec, rassure-nous.
Non, elle est toujours pas livrée avec. Donc, dans la boîte, il y a vraiment le MacBook Air, le chargeur secteur et le câble USB-C MagSafe. D'ailleurs, c'est assez marrant dont le connecteur magnétique est de la couleur Midnight, hein, ainsi que le câble tressé. Mmh. En revanche, la prise USB-C est blanche. Donc on a un câble tout...
Elle va dans un chargeur blanc.
Voilà. Voilà.
Mais bon, les couleurs,
je ne sais pas si c'est le cas des autres câbles... des portables de cette saison, mais voilà, j'étais étonné que l'extrémité soit blanche, mais pourquoi pas. Alors, j'ai passé un moment avec le responsable marketing produit pour la France d'Apple ce matin. On était trois journalistes avec lui, et alors j'ai pas le droit de le citer, donc je ne le citerai pas. Mais en revanche, j'ai pris des notes sur les infos qu'il a partagées avec nous, donc je vais les partager avec vous. C'est toujours difficile de leur faire partager des infos qui n'ont pas déjà été données d'une manière ou d'une autre par Apple, notamment les chiffres. Hein. On essaie à chaque fois, mais on n'arrive pas à les obtenir. Il a confirmé que le MacBook Air est le portable le plus vendu dans le monde, et le 15 pouces est aussi le portable 15 pouces le plus vendu dans le monde. Alors, si vous prenez ces deux informations, je lui ai demandé s'il se vendait plus de 15 pouces que de 13 en MacBook Air. Et il n'a pas voulu me répondre. Mais je ne sais pas si on ne peut pas tirer une conclusion des deux
que le 15 pouces
éléments factuels.
Plus que le 13 pouces ?
Non, c'est la question que je lui ai posée, à laquelle il n'a pas voulu répondre.
Non,
mais il m'a dit, le MacBook Air est le portable le plus vendu dans le monde, et le MacBook Air 15 pouces est le portable 15 pouces le plus vendu dans le monde. Je vous laisse jouer avec les statistiques.
Ouais. Tu peux faire
pour essayer d'en faire quelque chose.
Tu peux faire un backup éventuel en prenant ton téléphone et en appelant un certain nombre d'APR qui sont gentils, tu les appelles de la part d'Eli et tu dis que tu les citeras et tu leur poses la question, ils seront ravis de te répondre, je pense.
Et oui, on aura confirmation. Pas de valeur, ça aura pas forcément de valeur globale, mais bon.
Si tu tu tapes un certain nombre de d'APR qui sont maintenant regroupés par région, il y a au moins 4 ou 5 sinon plus magasins qui seront coupés derrière une enseigne, tu vas avoir une idée à peu près précise qui va confirmer ou infirmer ton intuition du 15 pouces le plus vendu.
Bah écoute, je te laisse faire l'enquête téléphonique, Gilles, et puis on en reparle dans
avec
une soixantaine
plaisir.
De coups de fil. Bon, les deux, trois éléments que j'ai retenus, c'est que, effectivement, dans le discours, ils insistent énormément sur la vocation IA du MacBook Air M3. Et ça m'a conforté dans l'idée qu'on entrait vraiment dans l'année de l'IA pour Apple. Le MacBook Air est une machine, c'est vrai, assez puissante avec le M3. mais sans doute que les machines à venir vont encore plus enfoncer le clou. Et on dira un mot tout à l'heure du M4 qui est sur les rails avec le MacBook Pro. Ça va sans doute encore se confirmer. Donc voilà, dans le discours, il y avait beaucoup d'éléments de démo autour de l'IA. En termes de puissance, il a beaucoup insisté sur cette nouveauté qui est le dynamic caching, donc qui est l'optimisation de l'utilisation de la mémoire, qui permet d'allouer en permanence la quantité optimale de mémoire dynamiquement pour chacune des applications qui tournent. On a eu un test d'un jeu de course auto qui s'appelle Green Legends, qui est sur le Mac App Store. Donc on était en résolution légèrement supérieure à la Full HD, on était en 1920x1200 avec un rafraîchissement à 50 images secondes, et c'est vrai un rendu qui était vraiment bien. Ensuite on a eu une petite démo avec un logiciel de création 3D gratuit et open source, très utilisé à la fois dans le milieu universitaire et aussi je crois un peu dans le milieu du design et du cinéma, qui s'appelle Blender. Et donc qui gère le ray tracing, donc c'est-à-dire la simulation des rayons de lumière en fait dans la scène pour la rendre photoréaliste. Et c'est vrai que en modifiant, on va dire la rotation de la scène 3D qui était créée en quelques secondes, on obtient une image qu'on voit d'ailleurs. S'affiner au fil des secondes, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pixels, il y a de moins en moins de points visibles, elle devient de plus en plus fine. Et vraiment, en quelques instants, on a une image très complexe en version haute résolution. Et ça demande effectivement énormément de puissance. Sur le concept de l'ordinateur destiné à l'IA, ce qui est marrant, c'est que en fait, il contestait presque explicitement que les PC d'IA soient les premiers ordinateurs faits pour ça, qui aient existé. Lui explique que depuis la sortie du M1, en fait, qui avait déjà un Neural Engine. En fait, le Mac est un ordi qui est capable de gérer de l'IA. L'iPhone l'était déjà depuis 2017. Le Mac l'est devenu en 2020. C'est comme ça qu'il l'a expliqué. Et l'intérêt de cette puissance dans le processeur permet justement au Mac de faire de l'IA sans recourir au cloud. Dans certaines situations en tout cas, et donc d'éviter de partager les données. Et donc il a évidemment parlé de tout ce qui était prédiction de texte, traduction, accessibilité, l'application photo et puis les applications tierces. On est ensuite passé sur une deuxième machine. On a fait les premiers tests vraiment en situation de portable avec l'écran ouvert. La suite des tests, elle a eu lieu sur un autre MacBook Air 13 pouces. Je crois que c'était un 13 pouces, qui était branché à deux écrans Apple Studio Display. Mmh. Donc le MacBook Air était fermé, puisqu'on sait qu'il ne peut gérer deux écrans que s'il est fermé. Donc on avait le MacBook Air fermé, les deux écrans en façade. Et donc la démo consistait à lancer Microsoft 365, donc c'est la suite Office, avec Copilot, y compris sur Mac, et donc à lancer une demande qui était de dire « construis-moi un itinéraire de 3 ou 5 jours, je ne sais plus, à Florence ». Il y avait une présentation PowerPoint sur la Toscane à laquelle il a demandé de rajouter une page sur les vignobles et la culture du vin dans la région. Il a lancé FreeChat, donc l'appli Apple, sur le MacBook Air, Et là, ça m'a étonné parce que j'avoue que j'avais pas eu cette impression-là avec FreeChat Freeform. Je dis Freeform, ouais. Donc il a lancé Freeform, l'application Apple sur le MacBook Air. Et là, il a lancé une requête typique d'un prompt sur ChatGPT. Et il a eu un retour retour de ChatGPT en point 1, point 2, point 3, point 4, etc. Et il nous a montré qu'ils avaient préchargé deux LLM, donc des modèles de.
De langage,
de
langage de grande taille.
Ouais, de grande taille, ouais. Dans Freeform, ouais. Dans les réglages de Freeform. Donc, ça donnait un peu le sentiment qu'on était en train de chatouiller ce qui allait peut-être arriver au moment de la WDC, quoi. Enfin, je sais pas, ça donnait l'impression d'être une sorte de préambule.
Sneak peek.
C'était pas des LLM Apple, hein, c'était. Voilà, ça m'a étonné. Je savais pas qu'on pouvait le faire.
Non, mais parce que personne n'utilise Freeform, donc il va falloir.
Oui, c'est ça.
Par exemple.
C'est ça.
Petite remarque, comme je trouve que on mélange tout, hein. On est bien dans une présentation un peu marketing, c'est-à-dire qu'on parle de des processeurs qui font de l'IA. Ensuite, on fait une démonstration d'IA qui n'utilise pas les capacités du processeur en question parce que tout ce qui est copilote et LLM, c'est fait en ligne, c'est pas fait en local. Et des machines en local comme celles qu'on t'a prêtées justement, en plus, s'en sont parfaitement incapables. Avec leur maigre 8 gigas de mémoire, on ne peut pas faire tourner un LLM dans 8 gigas de mémoire, et même pas dans 16 et peut-être en 24. Donc là, Apple se mord la queue, quoi. Il y a un moment, il va falloir qu'ils fassent des choix. C'est ce que j'espère voir en fait à la WWDC, c'est des annonces un peu comme ça.
Ouais, ouais. C'est sûr que le LLM qui était chargé, je crois, pesait un peu plus de 6 gigas. De mémoire. Voilà. Donc effectivement, il faut de la RAM derrière. Et la dernière démo, là pour le coup, elle utilisait le PROS et le Neural Engine. C'est un soft de retouche photo que je ne connaissais pas, qui s'appelle Luminar Neo. Mm-hmm. Je sais pas si vous le connaissez. C'était une photo de nuit sur des gratte-ciel. Sur lequel il y avait un effet de bouger, la photo était pas nette, et donc c'est comme un filtre en fait qui s'appelle netteté renforcée, qui s'appuie sur l'IA, et donc il a cliqué sur le bouton netteté renforcée, et en quelques secondes la photo qui pesait 50 mégas je crois a vraiment été améliorée de manière très très significative, c'est-à-dire qu'elle était franchement floue au départ. Il y avait encore un petit effet, mais franchement, elle avait perdu peut-être 80% de son défaut de bouger, quoi. Donc assez impressionnant. Et là, pour le coup, c'est géré à 100% sur le Mac. Voilà en gros ce qu'on a fait, ce qu'on a appris tout à l'heure sur le MacBook Air. J'ai eu l'impression que moi ça donnait le coup d'envoi d'une année qui allait être vraiment l'année de l'IA, et l'un des confrères a interrogé le chef marketing d'Apple sur justement le retard d'Apple sur l'IA. Voilà, il a répondu bec et ongle sur le fait qu'Apple n'était pas en retard, mais avait à cœur de faire les choses bien, et plutôt que de s'en mêler les pinceaux sans les citer, hein, comme Microsoft et Google, voilà, au moment où ils annonceraient peut-être des choses autour de l'IA, ce serait autrement plus réfléchi. Voilà les petites news sur le MacBook Air, mes amis.
La peinture serait sèche, comme a dit Fabrice.
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Quel est votre sentiment, vous, sur cette machine ?
Première chose, il y a un truc, un détail qui est apparu, notamment grâce à la chaîne YouTube MaxTech. Je pense que c'est intéressant d'en parler sur
Ouais.
cette histoire de vitesse de SSD, où on s'était aperçu que le MacBook Air M2 était en gros, dans sa version de base, deux fois moins puissant en termes de taux de transfert de fichiers que le MacBook Air M1. Parce que dans le MacBook Air M1, il y avait un SSD qui était constitué de deux puces de 128 Go pour faire 256, et qu'il n'y avait plus qu'une seule puce de 256 Go dans le M2, et que du coup, ça divisait quasiment par deux les taux de transfert en taux maximum. Et il semble que pour le M3, il soit revenu à deux puces, y compris dans la version de base. Ça fait du bien, parce que c'est dommage, parce que surtout quand on a justement que 8 Go de RAM, le débat continue à faire rage autour du fait de savoir si c'est suffisant ou pas. Je trouve que c'est un petit peu juste quand même, mais en tout cas, quand on pousse un petit peu les limites de la machine, qu'on a par exemple plein d'onglets ouverts, notamment dans Chrome, qui mange un peu plus de mémoire que Safari. Et donc ça remplit la RAM, et on est obligé de faire du swap, c'est-à-dire de l'échange entre la RAM et le disque dur, enfin le SSD, pardon. Et du coup, quand on perd quasiment deux fois la vitesse, on a une machine qui va globalement moins vite. On avait donc un M2 qui pouvait globalement aller moins vite qu'un M1 dans des conditions d'utilisation un peu poussées. Donc ça a l'air corrigé avec la M3. Je pense que c'est une bonne chose.
Ouais. Alors un message important pour nous, si vous appréciez notre travail, on vous invite à rejoindre la communauté iWeek sur Patreon. Vous nous aiderez ainsi à poursuivre la belle aventure iWeek. Ça se passe sur patreon.com/iWeek. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent déjà. Et puis on a besoin que vous soyez encore plus nombreux parce que voilà, parce que on a besoin de vous pour couvrir tous les frais d'existence du podcast. Et donc merci infiniment pour votre soutien. On passe au journal de la semaine avec les quelques infos importantes de ces 7 derniers jours. Et on commence donc par cette prédiction de Mark Gurman à propos des nouveaux iPads qu'on attendait au début du mois en même temps que le MacBook Air. En fait, Apple a choisi de dissocier les deux annonces. L'annonce de ces nouveaux iPads aurait plutôt lieu fin mars ou tout début avril. Et l'autre info que j'ai retenue du papier de Mark Gurman, c'est que l'iPad mini n'est pas mentionné puisqu'il parle uniquement d'un nouvel iPad, d'un nouvel iPad Air, de nouveaux iPad Pro M3 OLED, d'un nouveau Magic Keyboard et d'un nouvel Apple Pencil, mais donc pas d'iPad mini, a priori peut-être. Ça vous semblerait bizarre que l'iPad mini soit oublié?
Ce ne serait pas la première année où passerait son tour aux grandes dames d'Élie et de François. Mais est-ce qu'il se vend autant que ça? Parce que ce qu'on a vu aussi dans l'abandon du projet Titan et de l'Apple Car, c'est qu'il y avait une équipe dédiée pour un processeur spécifique à la voiture d'Apple et que donc c'est des ressources qui ont manqué à un moment donné pour faire progresser les différentes versions. Il était question aussi d'écran et d'iPad dans l'Apple Car. Est-ce que ce ne sont pas des ressources également qui ont manqué à un moment donné pour l'évolution de la gamme iPad telle que vendue toute seule, sans voiture autour? C'est une question qu'on peut poser et qui pourrait expliquer déjà le retard de la gamme normale et puis cette gamme mini qui, je repose la question, quel est son statut dans la hiérarchie des ventes chez Apple?
Ben on ne sait pas. Bonne question, Gilles. Autre rumeur, Fabrice, elle concerne iOS 18 qui ajouterait une fonction d'aide auditive aux AirPods Pro actuels, hein, pas forcément besoin de mise à jour matérielle, mais Ça pourrait être une killer app.
Alors, je me demande si ce serait pas de toute façon réservé au marché américain au départ. Et sans vouloir faire, on s'achemine vers du coup des systèmes différents en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs. Mais c'est notamment lié au fait qu'aux États-Unis, il y a un règlement qui est passé permettant d'acheter des aides auditives sans ordonnance. Ce qui n'est pas encore le cas ici, me semble-t-il. Et donc, ce seraient des dispositifs non pas médicaux, mais semi-médicaux. Donc, on peut se procurer facilement. Et à ce moment-là, les micros des AirPods pourraient être utilisés pour ça. Il y a déjà une fonction sur les iPhones qui permet d'utiliser le micro de l'iPhone qu'on peut poser au milieu d'une table pour entendre mieux quand on porte des AirPods aux oreilles, quand on a des soucis auditifs. C'est dans les options d'accessibilité, c'est déjà assez pratique. Je pense que ça va faire sûrement partie des choses qu'on va voir dans de nouveaux AirPods de toute façon, notamment à cause de ce règlement américain. J'espère qu'on verra ça en Europe aussi. Ça peut servir à des gens qui ont des faibles pertes auditives et qui pourraient en profiter facilement.
Je ne suis pas aussi catégorique que Fabrice. Alors, d'une part, pour des pertes d'audition moyennes ou sévères, il a raison. Il faudra de toute façon l'aide d'un professionnel, mais on n'a pas besoin de passer par des versions spécifiques des OS, dans la mesure où on peut désactiver ou activer des fonctions, comme c'est déjà le cas pour les Apple Watch, où la fonction de mesure de l'oxymétrie sanguine est désactivée par défaut pour le marché américain. C'est une sorte de droit numérique comme pour les films ou les contenus culturels où il y a une chronologie des médias qui est différente. Là, il y a des dispositifs réglementaires qui sont différents et en fonction du compte de la carte de crédit, du pays de la carte de crédit ou du pays dans lequel le compte est enregistré, on active ou on désactive telle ou telle fonction.
C'est tout à fait à ça que je faisais référence. Je ne pense pas qu'il y ait une version d'iOS pour ça. C'était pas ça mon propos. Pardon si j'ai pas été clair. Mais je me demandais si justement on allait voir plutôt des AirPods qui seraient vendus dans des versions différentes aux États-Unis et ici, à cause de ça, sachant qu'il ne s'agit pas d'un truc médical, donc a priori rien n'empêcherait que ce soit présent en Europe aussi, mais du coup la question se pose, je suppose.
Alors, autre petite info, celle-là on l'a apprise en suivant la séance de questions-réponses de Marc Gurman de Bloomberg. Il était interrogé sur quel avait été son tout premier produit Apple. Alors il avait répondu que c'était l'iPod mini bleu, mais il a aussi évoqué son portable, donc un MacBook Pro M1 Max qu'il utilise toujours, et il a expliqué qu'il attendait le MacBook Pro M4 pour en changer. Et il a ajouté cette petite précision à propos du MacBook Pro M4 qui commence juste son développement formel, a-t-il dit. Voilà. Donc ça veut dire que selon lui, c'est dans les tuyaux, mais on ne le verra pas avant plusieurs mois. Vous pensez que ça peut être une annonce de la WDC, le M4, ou ce serait trop tôt?
Ça serait beaucoup trop tôt. Il y a la version améliorée qui était prévue chez TSMC, la version améliorée du M3, enfin de la gravure en 3 nanomètres, avec des choses qui sont stabilisées au niveau de la mémoire, etc. Et du coup, la version M4 avec du 2 nanomètres ne serait au plus tôt disponible qu'à l'automne, voire au début de l'hiver, à mon sens.
Alors, on reparle d'intelligence artificielle à propos d'Apple. Toujours une rumeur. On la trouve notamment sur le site de John Gruber, Daring Fireball, qui cite Business Insider, selon qui Apple serait en train de tester une plateforme publicitaire dopée par une IA avec un petit groupe d'annonceurs. Et en fait, l'outil à base d'intelligence artificielle choisirait à quel endroit placer les pubs sur les différents emplacements disponibles sur l'App Store.
Youhou, encore, encore un outil encore plus efficace pour être sûr qu'on voit les pubs plutôt que le contenu qu'on cherche. Génial. Je vous rappelle l'outil que j'utilise beaucoup, tout le temps, qui s'appelle NextDNS et qui filtre les pubs avant même qu'elles arrivent sur mon réseau. Et je pense que je vais booster ça.
Ah, très bien. Bon, une moins bonne nouvelle, même une nouvelle un peu triste. Hein. Easy Computer, donc les APR de l'Est de la France, placés en redressement judiciaire. Officiellement, c'est la première étape d'un plan de relance de l'activité.
Je n'ai pas plus suivi cette affaire que ça. Je pense que c'est difficile pour tous les magasins, de toute façon. J'aurais préféré l'analyse d'Eli à ce sujet.
Bah oui. On le retrouvera très vite.
Ouais. Il y a un souci d'Apple, on pourra revenir avec lui là-dessus. Il y a un souci général d'Apple avec ses APR depuis le début. C'est qu'ils leur demandent de grossir, de multiplier les magasins, etc. pour éponger et faire tourner le stock au maximum. Mais ça pose des problèmes de trésorerie et de crédit, le taux d'endettement. Et il suffit d'un petit ralentissement dans l'activité et on ne peut plus faire face aux échéances. Il y a... Alors, si c'est pour remettre à plat et puis aller net, c'est bien, mais c'est pas une bonne nouvelle de toute façon, puisqu'il y a tout un tas de gens dans l'Est qui ne pourront pas, s'il y a vraiment une catastrophe, se déplacer jusqu'à Strasbourg et l'APR de la place Kléber.
On continue avec la suite de nos... travaux d'investigation autour de la nouvelle transcription automatique des podcasts dans Apple Podcasts depuis iOS 17.4. Alors, vous l'avez peut-être constaté si vous affichez cette transcription. Il y a deux manières d'ailleurs de l'afficher. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mes amis.
Il y a la présence de la transcription dans le menu à trois petits points quand on écoute un podcast. Voilà. Et puis, il y a l'icône carré avec des guillemets en bas à gauche. C'est la même chose que pour Apple Music, en fait.
C'est ça. Mais l'affichage, du coup, de la transcription n'est pas identique selon que vous passez par l'un ou l'autre des modes d'activation, on va dire.
Rassure-nous, c'est les mêmes mots quand même.
Oui, c'est les mêmes mots, absolument. C'est les mêmes mots, mais vous avez remarqué que le nom des intervenants n'est pas mentionné. C'est-à-dire que le texte déroule et il est très bien retranscrit, mais on ne sait pas qui parle. Et donc, Apple a précisé qu'on pouvait fournir cette information à Apple Podcast. Mais évidemment, c'est pas tout à fait simple. Alors, j'ai essayé pour voir ce qui se passait et de quelle manière on pouvait ajouter cette info qui est importante. En fait, quand on va sur la plateforme, le back-office des podcasts d'Apple Podcasts qui s'appelle Podcast Connect, on peut effectivement télécharger le fichier de transcription. Donc c'est un fichier texte en fait hein, avec les time codes de chaque bloc de texte, mais comme le système ne sait pas qui parle effectivement, on a juste une indication qui est speaker 1, speaker 2, etc. Et donc intervenant 1, intervenant 2 en français. Et tant que c'est speaker 1, speaker 2, ça n'apparaît pas dans la transcription à l'écran. C'est-à-dire que vous n'avez pas la transcription précédée de speaker 1, speaker 2. En revanche, c'est dans le fichier. Ce qu'explique Apple, c'est qu'on peut, en fait, on peut renvoyer le fichier de la transcription automatique à Apple en indiquant le vrai nom des intervenants. Donc, par exemple, remplacer speaker 1 par Fabrice, remplacer speaker 2 par Gilles, etc. Le problème, c'est que pour le faire, il faut que les hébergeurs de podcasts prévoient un champ dans chaque épisode pour activer cette fonction. Et il faut associer le fichier qu'on a modifié. Donc, il y a un petit peu de machinerie interne du côté des hébergeurs de podcasts. J'ai posé la question à Ocha, qui est notre hébergeur. Évidemment, ils n'étaient pas au courant. Voilà. Enfin, je dis évidemment, alors je pense qu'ils devraient être au courant de ce genre de choses. C'est pas normal que ce soit à nous de leur dire, mais bon. Voilà. Ils sont réactifs, mais ils ne sont pas forcément très à jour. Hein. Et donc, ils m'ont promis que cette possibilité existerait d'ici quelques semaines, ont-ils dit.
Chers auditeurs, vous saurez enfin qui parle.
Voilà. Donc, dès que ce sera possible, on essaiera et vous verrez. Et puis, on vous racontera comment ça s'est passé. Enfin, en tout cas, on voulait vous dire qu'on était sur le coup et qu'on lâchait pas le morceau et qu'on espérait bien pouvoir ajouter le nom des intervenants très vite dans Apple Podcast. Le Vision Pro, utilisé pendant une opération chirurgicale au Royaume-Uni, opération hyper délicate, hein, puisque à la colonne vertébrale, je cite, pour éliminer l'erreur humaine, et l'équipe de chirurgiens dit que c'est un game changer, autrement dit que ça, c'est une révolution. Fabrice, si tu as compris comme moi, c'est pas le chirurgien qui portait le Vision Pro, c'est en fait la petite main à côté qui lui fournit les bons outils, si j'ai bien compris.
L'instrumentiste.
Ouais.
L'instrumentiste, c'est ça.
Voilà. C'est intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui a dû être en fait fait, ou qui aurait pu être fait en tout cas avec le Microsoft HoloLens. Parce que c'est des démonstrations qu'on sait, c'est-à-dire que à partir du moment où on porte un casque de réalité mixte qui est capable de voir un peu ce qui se passe autour, on peut avoir donc de la réalité augmentée, donc pourquoi pas de la chirurgie augmentée. C'est intéressant. Je me demande comment ils ont fait pour être sûr que le casque soit désinfecté comme totalement, c'est important aussi. Je suppose qu'ils ont trouvé le moyen de le faire. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que ça fait partie de tous ces usages, ou en tout cas de ces quelques usages qui font que des casques comme ça peuvent être utiles, voire indispensables dans le futur. Mais ce ne sont donc pas des usages grand public, loin de là. Et c'est un exemple pour moi encore du fait que on ne sait pas encore exactement à quoi ça sert, en fait. Donc, c'est intéressant, mais pas en termes de grand public et en termes de... Ouais. Ça ne remplace pas, c'est donc pas un nouvel iPhone, quoi. On est bien d'accord sur ce point.
Absolument.
Pas encore, mais ça avait été utilisé par... le HoloLens avait été utilisé, ils étaient assez contents de ce que ça pouvait... représenté en termes de progrès. Je pense que tout simplement, c'est mettre le nom, une étiquette devant les instruments qu'on regarde et que demande le chirurgien. Une pince à clamper, tel ou tel instrument pour faire des points, etc. Il parle de faire gagner 10 ans dans l'article, gagner 10 ans de formation. Ce qui est important quand on voit l'état du système de santé anglais en termes de formation de gens, et le nôtre n'est pas beaucoup plus en meilleur état que celui des Anglais. Donc il y a vraiment quelque chose du progrès de chaque métier même. J'ai vu passer une étude réalisée auprès des employeurs et des sociétés françaises. J'arrive plus à retrouver la quantité de gens qui pensaient ou qui travaillaient déjà sur des usages spécifiquement sur le Vision Pro était de l'ordre des 2/3 des gens qui étaient sondés, ce qui est énorme. Les 2/3 des entreprises interrogées commençaient à réfléchir ou avaient déjà commencé à travailler sur une utilisation professionnelle du Vision Pro. Alors même que le casque n'est pas disponible ici en France.
Ouais. Alors si vous utilisez déjà un Vision Pro et si vous jouez avec, sachez que sur Apple Arcade, 5 nouveaux jeux vont arriver en avril. 3 arriveront le 4 avril pour la plupart des appareils Apple. Mais 2 autres sortiront le 25 avril et ceux-là seront aussi compatibles avec le Vision Pro. Vous aurez Crossy Road Castle et puis Solitaire Stories. Là, un jeu de cartes avec un jeu de cartes apparemment qui va flotter dans l'espace. Voilà, pour élargir votre palette d'applis utilisables avec le Vision Pro, donc dispo dans un peu plus d'un mois. Tim Cook, alors Tim Cook, il est apparu hier lundi à un lancement Porsche. Fabrice, tu as vu comme moi cette vidéo de la petite keynote Porsche ? Grande surprise de voir Tim Cook apparaître à la toute fin.
Ouais, et alors c'était douloureux, hein.
Ouais.
Parce hein. que donc c'est, on peut voir une vidéo sur YouTube de la présentation d'un nouveau Porsche Taycan électrique qui va très vite, etc., etc. Bon, c'est donc une voiture de course électrique. Youpi, moi ça me passionne pas, enfin c'est très bien. Mais et à la fin, il y a, ça doit être le patron de Porsche qui fait semblant d'avoir une conversation avec Tim Cook parce que
oui, on voit sent des que c'est enregistré.
Ouais, on voit des vies. On se demande même s'ils se voyaient pendant la dite conversation parce que donc dans la vidéo, on voit avant des Vision Pro qui sont utilisées dans les stands, voilà. Et puis ensuite, il y a donc le patron de Porsche qui dit ah oui, puis alors Tim Cook, merci, on a un partenariat avec Apple, on a Apple CarPlay, on travaille avec Apple pour aller encore plus loin dans etc. Et voilà que Tim Cook apparaît et il a sa voix monocorde des grands moments où il dit eh oui, bonjour, je suis très content de ce que nous faisons avec Porsche et d'ailleurs c'est formidable, enfin c'est hallucinant, c'est insupportable.
T'exagères.
C'est très bizarre. Hein.
T'exagères, il parle
oui,
à tout le monde.
Ouais,
il parle à tout le monde, y compris aux gens qui ne parlent pas très bien anglais aussi couramment. Que tu peux le faire ou Benjamin, et d'autant plus qu'il est en face de lui un locuteur qui est allemand, donc ils ont un meilleur accent que les Français, mais il a sa voix lente et c'est le contenu du discours qui m'a un peu horripilé parce que c'est ce que j'appelle la langue de c'est même plus la langue de bois, c'est la langue de Sequoia d'Apple dans ses communiqués de presse ou ses communiqués sa communication corporate où il a pas dit qu'il attendait avec impatience de voir le développement du partenariat avec Porsche, mais s'il y a des formules toutes faites et interchangeables qui sont utilisées dans chaque communiqué de presse ou communiqué de communication du patron, quoi, ou des chefs ou des différents responsables.
Mais en tout cas, ouais, c'est quand même assez marquant, assez étonnant de voir Tim Cook apparaître à une annonce Porsche. Quelques jours après, alors c'est pas une annonce Apple, mais en tout cas après l'annonce en interne de l'arrêt du projet Apple Car.
C'était toutes les limites de l'exercice.
Pas étonnant comme simultanéité quasiment.
Mais non, c'était toutes les limites de l'exercice, de savoir que depuis 10 ans, le croque-mitaine, le grand méchant loup de chaque industrie qui risquait de se faire disrupter par l'arrivée du numérique et d'Apple en particulier sur son marché.
Ben oui.
Savoir qu'il préparait quelque chose et en même temps le voir arriver en disant « Ah, vous savez, nous on a des solutions pour votre voiture, est-ce que vous voulez faire un partenariat ?» Microsoft a essayé avec dans les années 2000 pour la musique avec le Zoom et son...
Non mais Gilles, c'est comme si Apple... Apple, tout le monde avait peur qu'Apple arrive sur le marché de la voiture. On apprend qu'ils arrêtent tout et la semaine d'après, ils sont invités chez Porsche. Enfin, c'est énorme, non ?
Non, c'est logique. C'est logique.
Mais non, mais on a l'impression que c'est complètement lié. Enfin, je veux dire...
Ah ben oui,
c'est libératoire pour Apple.
Voilà, merci Fabrice.
Dire plutôt, c'est plutôt ça. Voilà, bon, on va pas. Enfin, ce serait comme si, allez, je vais remettre un euro dans le nourrin. On n'imagine pas Tim Cook aller dans une annonce Spotify parce qu'ils ont Apple Music. S'ils avaient fermé Apple Music, ils seraient allés chez Spotify pour dire que c'est les plus formidables, camarades. Alors que là, Apple et les dirigeants d'Apple ont toujours bien aimé les voitures. On sait que Eddie Q est toujours au bord de Ferrari, me semble-t-il.
C'est le seul
que... Oui, peut-être, mais enfin, du coup, ça libère... Donc, c'est dans ces cas-là, c'est Eddie Q personnellement, mais ça libère la parole d'Apple, la société, de pouvoir faire des partenariats avec d'autres voitures. C'est clair qu'on ne s'attend pas à ce qu'Apple fasse un partenariat avec la Renault 5. Et donc, c'est plutôt des voitures sportives très chères et de grande performance qui coûtent des watts millions. Et voilà. Donc, je pense que voilà, c'est libératoire pour Apple.
Ils sont très fans des voitures allemandes. En fait, c'est pour ça.
Oui, non, mais d'accord, mais enfin, là, c'est du business, Gilles.
Bien sûr.
Oui, mais il y a toujours un truc affectif, de confiance, de délation réciproque, de confiance a priori. L'inverse, si tu veux, qu'on peut avoir avec Daniel Ek, le patron de Spotify.
Bon, on termine avec cette annonce d'un événement Microsoft le 21 mars, donc dans 9 jours. Il sera question à nouveau de PC AI, IA en tout cas en français, et notamment de nouvelles Surface Pro et portables Surface Microsoft.
Oui, bon bah du coup on est... Eux aussi, ils arrivent avec leurs ordi qui sont prêts pour l'IA. Pour l'instant, Microsoft est plus pertinent qu'Apple dans le domaine, puisqu'ils ont OpenAI, ils ont Copilot, ils ont tout ça.
Et ils ont une touche dédiée sur le clavier maintenant.
Et une touche dédiée Copilot, des processeurs Intel et Snapdragon qui intègrent, comme Apple le fait depuis longtemps, mais donc eux aussi maintenant ils ont des processeurs avec des moteurs neuronaux dedans. Très bien, donc c'est on est dans le vent de l'histoire. On sait que potentiellement Apple est un peu en retard sur le sujet. Enfin, ça fait longtemps, hein. Quand on a commencé à dire qu'Apple était en retard, je pense qu'on était tous d'accord autour de notre belle table à iWeek pour dire qu'on attend donc qu'Apple arrive avec quelque chose à raconter. Donc c'est cette histoire qu'ils vont nous raconter à la WWDC qu'on attend avec impatience autour de tout ça.
Oui, absolument. On passe à nos coups de cœur de la semaine. Une minute chacun, les amis. Qui veut commencer ?
Je commence en disant que je donne la mienne à Fabrice.
Ah, super. Donc, du coup, maintenant, j'ai 2 minutes.
C'est ça. Non, t'as toujours 1 minute. Escroc.
Ah, c'est pas cool. Moi, je voulais parler de Speedometer. C'est un site web. Donc, enfin, il y a un site web qui s'appelle BrowserBench, BrowserBench.org. Qui propose plusieurs outils, dont Speedometer, qui est un calculateur de la puissance de son ordi qui passe par le navigateur Internet, donc on fait tourner dans son navigateur Internet. Ça permet de comparer la vitesse des navigateurs Internet qu'on a installés sur son ordi pour voir lequel est plus rapide éventuellement. Ouais. Et puis, du coup, ça donne un indice de la puissance globale de son ordi. Il vient de sortir la version 3 de Speedometer. Donc, c'est intéressant, c'est plus à jour pour les navigateurs d'aujourd'hui. Et puis, je trouve que ça... Moi, j'aime bien utiliser ça pour faire des benches et des tests. C'est toujours... quand on a un nouvel ordi, c'est un des benches qu'on peut faire. Mais aussi, pour tester, des fois, c'est intéressant de tester en activant et en désactivant certaines des extensions qu'on a pour voir. Parce qu'il y en a qui peuvent ralentir vraiment le navigateur qu'on utilise. Et c'est vraiment intéressant de tester. Donc, il faut faire ça aussi scientifiquement que possible en désactivant les extensions une par une pour voir s'il n'y en aurait pas une qui, justement, réduirait beaucoup la vitesse de son navigateur. Donc, voilà, browserbench.org et puis le speedometer, troisième version du nom.
Ben moi, mon petit coup de cœur, alors rien à voir avec Apple, hein, c'est du ciné. C'est la première bande-annonce, c'est plus un teaser du nouveau Deadpool. Alors, ça devait s'appeler Deadpool 3, mais ça a été rebaptisé Deadpool contre Wolverine. C'est donc évidemment un face-à-face entre Hugh Jackman et l'acteur qui joue Deadpool, dont le nom m'échappe, mais vous voyez de qui je veux parler. La sortie est prévue le 26 juillet aux États-Unis, et je pense que ça va être un bon moment de rigolade, parce que Deadpool, c'est quand même de l'humour bien gras et qui pousse loin le bouchon. Mais
c'est pas pour les enfants, hein.
C'est pas pour les enfants, c'est sûr. C'est pas du tout pour les enfants. mais ça promet, oui.
J'ai cru que c'était un remake de Chicken Run, la façon dont tu le, prononçais.
Non, pas trop. Non, mais ce qui est sympa, c'est que les deux acteurs sont très très potes dans la vie, et donc je pense que ça va donner quelque chose de sympa, de très 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 rigolo au cinéma. Et le teaser, je spoil pas, mais on ne voit pas Wolverine, on le devine juste sur la dernière image de fin. Et voilà, ils vont faire monter le suspense pendant les quelques mois qui restent avant la sortie en salle.
Et pour ceux que ça chatouille depuis que tu as dit ça, le nom de l'acteur, c'est Ryan Reynolds.
Voilà, Ryan Reynolds, voilà. Exactement. Merci Fabrice. Le 177 d'iWeek, la semaine Apple, est terminé. Vive le 178. Si vous aimez notre rendez-vous hebdo, abonnez-vous aussi à iWeek Express sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit également. Et puis bien sûr, patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté et nous soutenir. Merci beaucoup les copains. Fabrice Neumann.
Merci mon capitaine. Merci à toutes et tous. Merci Gilles.
Grand plaisir. Et merci Gilles Dounès.
Merci Benjamin Vincent, merci Fabrice Neumann et merci à vous de votre indulgence et de votre écoute et de votre affection.
Merci. Et votre fidélité, bien sûr. On continue le dialogue avec vous sur les réseaux Threads, Blue Sky, X, Mastodon. Vous cherchez iWeek News ou iWeek.news et puis dans tous les cas, utilisez le hashtag iWeekLSA, ça nous permettra comme ça de suivre vos messages et d'en rendre compte et d'y répondre. Chaque semaine désormais, on ouvrira une parenthèse dans l'hebdo pour continuer le dialogue avec vous. Si vous êtes parmi nos soutiens sur Patreon, ne bougez pas, on prolonge l'épisode juste après le générique de fin avec le bonus qui est consacré cette semaine à l'Apple Car. On va dire, on va refermer le dossier de l'Apple Car, puisqu'on sait désormais à quoi elle aurait pu ressembler, et pas du tout à une Tesla. On va voir ça ensemble dans un instant. Passez une très bonne semaine, un bon week-end, et on vous dit à très vite pour la suite. Salut les copains, bye bye.
Bye bye. Bye, bye.